Ici, si dans cette église, nous ne sommes pas une dénomination. Nous ne sommes pas liés à une dénomination et non plus liés à une certaine assemblée ou bien église dans une sorte de dénomination. Et malgré tout, nous sommes liés avec tous les croyants de toutes les dénominations dans le monde entier. Notre petite assemblée ici ce matin est connue dans le monde entier. Les cassettes de ces messages comme ça, découpés tels qu'ils sont, et malgré tout, nous soutenons beaucoup dans le champ missionnaire, dans 19 différents pays, nous envoyons ces cassettes. Dans 19 différentes nations, ces cassettes sont, ces messages sont reçus et sont traduits. Pendant que je prêche, il y a quelqu'un qui se tient derrière et qui traduit ces prédications. Et dans les endroits d'Afrique, là-bas où Dieu n'est pas encore connu, ces prédications sont envoyées en Afrique du Sud et en Amérique du Sud et partout. Des centaines de centaines d'hommes viennent au Seigneur et beaucoup sont guéris. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que ce message doit être publié partout et propagé. Il ne s'agit pas de construire de grands bâtiments. Pendant que je suis ici, je voudrais enseigner sur la Bible. Là-bas, dans le champ dehors, je ne prêche pas l'enseignement, la doctrine. Si je le faisais, cela allait rendre le travail plus difficile. Les gens diront que mon enseignement n'est pas juste. Si j'apportais la façon de voir méthodiste, alors les méthodistes ou bien alors les baptistes seront contre cela. Chacun ne serait pas en accord avec cela. Si j'apportais la façon de voir nazarérienne, alors les autres ne seraient pas d'accord avec cela. Vous devez alors prendre une position et je ressens que nous souhaitons la bienvenue à chaque croyant. Ça n'a pas d'importance de quelle dénomination vous venez. Si vous êtes seulement né de Dieu, par l'Esprit de Dieu, alors vous êtes nos frères et nos sœurs. Et c'est ainsi que nous voulons que cela demeure pour toujours. Si le Seigneur le veut, je voudrais aujourd'hui parler d'un sujet dans notre assemblée ici, car notre assemblée est fondée sur les enseignements bibliques, se tient sur les enseignements bibliques, et je voudrais exposer les choses pour lesquelles l'assemblée se tient et pourquoi est-ce que nous le faisons. Pendant que je le fais, nous n'allons rien faire d'autre que de apporter certaines différences et comparaisons et répondre aux questions des individus. Pourquoi est-ce que nous enseignons certaines choses et pourquoi est-ce que nous croyons ce que nous croyons? Si cela se passe, que vous ou bien votre assemblée, vous ne croyez pas comme nous le disons ici, en tant qu'enseignement pour l'Église, alors je fais confiance que cela ne sera pas un scandale pour vous ou bien de la discorde. Car le premier pas pour servir le Seigneur est la preuve que nous servons le Seigneur et que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est l'humilité. C'est une vie humble. Humble. Une humilité qui vient de Dieu. Et cela doit être, la parole doit être dispensée avec humilité. 1 Timothée 1, verset 5, avec amour. Une assemblée sans enseignement, est comme quelqu'un sans colonne vertébrale. C'est pour cette raison que l'assemblée doit avoir la colonne vertébrale. Et pas seulement cela, elle doit être aussi nourrie. Nourrie, car l'assemblée vit de la parole de la vie. Et ce que je voulais dire est la chose suivante. Si j'essaye de clouer le clou, alors s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Je ne veux pas être dur quand je parle de la parole de Dieu, de la Bible. Mais si pendant plus de 30 ans, j'ai sondé et sondé les Écritures et que je n'ai pas les pensées d'un homme et les façons de voir d'un homme, ici, il y a des hommes qui viennent de l'Église catholique, de presbytérienne, baptiste, méthodiste, pentecôtiste. Ils sont tous assis ici. Et je sais que chaque assemblée a sa propre façon de voir les choses. Je ne veux pas être en désaccord avec ces choses, mais je ne peux que prendre les saintes écritures et comparer ces choses avec les saintes écritures. S'il vous plaît, comprenez tous. Je ne veux pas être dur, mais dans l'amour, dire ce que je dois dire. Et tant que je le sais, je veux exposer les saintes écritures. Mon sujet aujourd'hui, ce sera un sujet long. Je ne voudrais pas me dépêcher, mais je voudrais me prendre le temps nécessaire concernant ce que je dois dire et expliquer pourquoi est-ce que nous croyons ces choses. Très souvent dans les assemblées, quelqu'un dira, mais qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il est encore un baptiste? Est-ce qu'il est pentecôtiste? Est-ce qu'il croit au parler en langue? Est-ce qu'il est ceci ou bien cela? Est-ce qu'il croit à la sûreté éternelle des croyants? Et si vous faites une seule remarque concernant ce que vous croyez et vous êtes, alors ils vous laissent tomber comme une pomme de terre chaude, bouillante. Ils ne vont pas se prendre assez de temps pour sonder les Écritures, pour comparer cela avec les Écritures, mais ils vont tout de suite vous laisser tomber. N'importe, nulle part, tant que je le sache, je n'ai laissé dans une assemblée de la désunion parmi les frères. Je ne fais que prêcher le retour du Seigneur et le salut de l'âme et la guérison du corps. Et par cela, personne n'est blessé qui croit le plein évangile. Mais ici, dans notre assemblée locale, nous avons la doctrine, l'enseignement dans l'église. Parfois, quelqu'un dit, mes frères, Branham a dit ceci ou bien a dit cela. Il n'y a pas longtemps, dans une assemblée, alors que quelqu'un, par exemple ma secrétaire, a rencontré un groupe de prédicateurs et ils lui ont posé la question, est-ce que frère Branham croit que si quelqu'un, une fois, était devenu croyant, que pour toujours, il demeure croyant? Ça n'a pas d'importance ce qu'il fait. Je connaissais ce groupe et je savais exactement quelle sorte de réponse ils attendent. Oui, ça n'a pas d'importance que je le croie ou pas. Ce qui est important, c'est que je sois sauvé. Mais je n'ai rien dit et déjà 16 assemblées se sont retirées. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné la réponse. Seulement parce que je veux conserver le contact avec tous les croyants. Mais aujourd'hui, je voudrais exposer pourquoi est-ce que je crois ce que je crois. Nous voulons prier. Seigneur, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et à nous, en tant qu'un sacrifice de ton amour, tu nous l'as donné, tu nous as lavé par l'eau de la parole, selon Éphésiens 5, verset 26, et ainsi tu t'es fait un peuple en bonne santé, saint et sanctifié, selon Tite 2, verset 14, appelé à sortir, mis à ta disposition, et ainsi nous attendons ton retour. Nous savons que aux yeux des hommes, beaucoup de doctrines et de dénominations existent. Mais Dieu, notre Père, nous te demandons que tu puisses bénir chacun d'eux. Et les choses pour lesquelles ils se tiennent, oh Dieu, que tu puisses les secourir. Même si nous ne sommes pas en accord avec leur façon de voir, malgré tout, nous sommes des chrétiens et nous nous considérons comme des frères et que nous nous tenons l'un avec l'autre, épaule collée à l'épaule. Et pas seulement école par épaule, école, épaule collée à l'épaule, mais cœur uni au cœur. C'est un temps où les gens, comme ça, prennent les choses à la légère. Et les gens sont orgueilleux, préfèrent le plaisir à Dieu. Les gens prennent les choses à la légère. Nous te demandons que le Saint-Esprit puisse nous unir de cœur à cœur, toujours plus profondément les uns avec les autres. Que tu puisses guérir les malades aujourd'hui. Ici, voilà des gens qui veulent être baptisés d'eau. Nous te demandons que ton Saint-Esprit puisse les remplir de sa présence. S'ils n'ont pas déjà reçu. Qu'ils soient scellés et ôtés des choses de ce monde et remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'amour de Dieu et de la communion avec tous les hommes, du contact avec tous les hommes. Car tu m'as envoyé parmi les nations des hommes, moi un petit homme de rien du tout, sans instruction. Mais dans mon cœur, je crois que les choses que je crois et que j'ai enseignées venant de la Bible et que ces choses-là ont été confirmées par l'ange de l'Éternel qui est présent pour confirmer si cela vient de Dieu. Souvent, très souvent, les hommes pensent que je suis quelqu'un qui fait des compromis. Toi, tu es le juge de mon cœur, mais tel que Paul autrefois a dû d'abord prêcher aux Juifs jusqu'à qu'il ait reçu leur confiance et ensuite il leur a prêché Christ. D'abord il a prêché. Il a gagné leur confiance avant de leur prêcher Christ. Et nous demandons que tu puisses, Seigneur, accorder du sel à ta parole et de l'onction et bénir notre communion, que le sang du Christ puisse nous purifier et appeler à sortir ceux que tu as déterminé à sortir et élu pour cela, qu'ils puissent tous venir et devenir comme toi tu étais, pour que le monde puisse avoir soif de devenir comme tu es. Que tu puisses accorder ta grâce et ta miséricorde, remplis-nous de ton amour et de ton esprit. Nous te le demandons dans le nom de celui qui a prié que nous soyons tous un. Car tous devraient reconnaître par cela que nous sommes tes enfants si nous avons de l'amour les uns avec les autres et les uns pour les autres. Amen. Bon, je sais que c'est chaud ici, la température, et le climatiseur est allumé. Bon, je voudrais lire dans la parole de Dieu. Merci, ça suffit. Je voudrais que vous puissiez avec moi ouvrir les Écritures, et cela dans Joël. J'ai encore quelques versets bibliques desquels je voudrais aussi lire pour le contexte de notre leçon. D'abord, Joël chapitre 1, en commençant avec du premier verset jusqu'au quatrième verset, et ensuite dans le deuxième chapitre à partir du verset 25 jusqu'à la fin. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Bethuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le Asile l'a dévoré. Ensuite, le chapitre 2 à partir du verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asil et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ensuite, je voudrais lire dans l'Épître aux Romains, le premier chapitre, le verset 25. Peut-être aussi le verset 24 avec. Romains chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté de leur cœur, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont... Ensuite, Romains chapitre 3, le verset 4. Au traduction, ils ont échangé la vérité de Dieu avec le mensonge. Romains 3, verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Bon, selon qu'il est écrit. Ici, nous venons dans une série de sujets importants. Et ensuite, je crois que un temps viendra dans lequel toutes choses de nouveau seront restaurées. Tout ce qui a été pratiqué de la mauvaise manière. Et nous essayons avec tout ce qui est en nous, et aussi d'autres hommes essayent, de nous voir les grands évangélistes comme Billy Graham et Oral Roberts, et beaucoup des évangéliques dehors, et des prédicateurs et des pasteurs qui sont fidèles à leur place, à leur poste. Ils essayent aussi de voir un réveil parmi le peuple dans notre temps. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous prions pour un réveil dans ce temps. Des 10 000 prières s'élèvent à Dieu à chaque heure pour que Dieu envoie un réveil maintenant à la fin des temps. Et il est écrit que si mon peuple, le peuple qui est appelé de mon nom, se réunit et prie, alors moi je vais répondre du haut des cieux. Bon, si les enfants de Dieu sont réunis et qu'ils prient pour un réveil dans notre temps et que le réveil ne vient pas, alors il faut que quelque part il y ait quelque chose de faux. Bon, pensez à cela, que tout peut seulement travailler ensemble, c'est-à-dire dans la loi prévue pour cela. Parce que chaque voiture peut seulement se déplacer dans la rue selon le code de la route. Les planètes se déplacent dans leur loi. Le soleil peut se déplacer seulement tel que la Terre se comporte. Tout travaille selon la nature, selon la loi qui est faite pour lui. Car Dieu a créé toutes choses et a donné aussi pour toutes choses sa loi. Alors, il faut que toutes choses se comportent selon la loi pour ces choses. D'une autre manière, cela ne va pas fonctionner correctement. Si vous prenez une chaîne et que vous voulez en sortir un moignon et que cette chaîne est coupée, alors vous n'avez pas comme ça le droit de remplacer le maillon par un maillon quelconque. Vous devez trouver un maillon de la même matière que cette chaîne et le mettre dans cette chaîne. Sinon, si vous utilisez cette chaîne, elle se brisera. Mais si le maillon que vous venez de remplacer est de la même matière que les autres maillons, est aussi fort, alors la chaîne tiendra. Je suis certain que quelque part, il y a un maillon qui est faux. L'église se marche trop lentement pour l'heure dans laquelle elle vit. Il y a quelque chose de faux. Selon 2 Pierre chapitre 1 verset 1, la foi n'est plus selon le même prix qu'était celle de l'église primitive. En accord avec 2 Corinthiens 13 verset 5 et Galates 2 verset 20. Nous sommes si proches du retour du Seigneur. Nous devons nous asseoir et chercher ce qui est faux. Nous devons en trouver la raison et la cause. Vous ne pouvez pas commencer un traitement si ce n'est que l'origine de la maladie est constatée. Si vous allez à un médecin et que vous lui dites, j'ai toujours des migraines et des maux de tête. Et vous fait, il fait que vous donnez une aspirine et vous fait repartir. Ça veut dire qu'il veut seulement se débarrasser de vous. Un véritable médecin va examiner le cas et jusqu'à qu'il trouve d'où vient l'origine. Qu'est-ce qui cause ces migraines? Et d'où vient la désunion? Et c'est de là qu'il va commencer à faire son traitement. C'est aussi avec l'église du Dieu vivant.
Nous devons trouver aujourd'hui d'où est-ce que vient la fausseté. Et pourquoi est-ce que les choses n'ont pas le même prix qu'avec celles de l'église primitive? Et c'est de là que nous devons commencer le traitement. Les Saintes Écritures sont comme l'ordonnance d'un médecin. La science a travaillé dur pour inventer des médicaments pour tuer certains germes dans le corps, trouver un sirop pour traiter certaines bactéries. Et c'est ainsi que ces médicaments doivent être donnés de manière avec soin. Car si cela n'est pas assez donné, si on en donne trop peu, cela ne va pas aider le patient. Mais si on en donne trop, cela va tuer le patient. Il faut que cela soit donné dans la mesure adéquate prescrite par le médecin, en accord avec l'ordonnance. Si aujourd'hui dans l'église il y a quelque chose de faux et qu'elle ne se déplace pas comme elle devrait le faire, alors selon mon avis, on doit retourner à l'ordonnance. C'est seulement comme ça que nous pourrons savoir ce qui est faux. L'église est malade. Il y a de la peste dans l'église. Il y en a qui sont malades du péché. Le péché les ronge. Et nous devons savoir ce que le docteur a prescrit. Et nous devons aussi voir est-ce que nos pharmaciens, donc les prédicateurs, ont vraiment respecté l'ordonnance du médecin. Parce que vous pouvez ajouter quelque chose à l'ordonnance et tuer le patient. Je ne dis pas que cela s'est passé. Mais qu'est-ce que cela serait si nos pharmaciens auraient ajouté quelque chose à l'église? Alors ils sont en train de tuer les patients. Ils les laissent mourir dans le péché. Oui, vous dites, s'ils sont sincères, non. Cela n'excuse pas. Ici, il y a un pharmacien qui a donné à quelqu'un d'autre de l'acide et il pensait que c'était un médicament et le patient est mort. Et malgré tout, le pharmacien était sincère. Ce n'est pas seulement la sincérité. J'ai vu les païens dans leur sincérité. Je vous dis que cela, nous nous cacherions tous devant eux. J'ai vu des païens qui ont donné dans leur sincérité leurs enfants aux alligators et ont sacrifié leurs enfants. Il y en a d'autres qui ont sacrifié leurs enfants à des dieux. Cette sincérité dans leur cœur. Je ne veux pas trouver cette sincérité parmi les chrétiens. J'ai vu des hommes qui ont fait des marques sur la peau de leurs enfants. Et ils étaient même déchirés dans leur corps, sur leur corps. Ils ont même saigné de sang et ils sont morts. Ils sont sincères, mais ils sont sincères de la mauvaise manière. Alors nous voulons trouver quelque chose, car Joël nous a, c'est ainsi que je le crois, nous a donné le bon fondement pour trouver ce qui est faux. Et ça, nous l'avons lu en tant que notre texte. Ici, il est écrit, racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Joël chapitre 1, cela, ce sont les païens, les nations. Qu'Israël puisse le dire jusqu'à que les enfants à la génération qui suivent, donc aux nations. Et nous voyons que Joël, ce que Joël avait ressenti autrefois, cela s'accomplit maintenant aux païens aujourd'hui, dans notre temps, nous les païens. Il disait ce que le gazon a laissé, la sauterelle l'a dévoré, etc. Et ces insectes-là, si vous prenez un livre sur les insectes, vous constaterez c'est en fait
le même insecte au cours de ses métamorphoses. Au cours de ses métamorphoses. Métamorphoses. L'un sort de l'autre dans ses différentes dans son différent développement. Métamorphose. C'est ainsi. C'est le même insecte, en fait, mais dans les différents développements et croissants, dans sa différente croissance. Maintenant, écoutez, justement, quoi que cela se soit passé au commencement, quoi que ce soit passé au commencement, tout ce que ces insectes ont commencé à faire autrefois, cela a été manifesté dans le développement, dans la croissance suivante, dans la métamorphose suivante. Cela a commencé déjà dès le commencement. Et c'est la même chose qui est la cause des difficultés aujourd'hui encore. Nous voulons aller dans les Saintes Écritures et voir comment est-ce que ces choses ont pris leur cours, ont commencé. Nous savons que nous pourrons seulement édifier l'Église selon Éphésiens 4, versets 11 et 12, si nous utilisons le matériel que Dieu nous a donné pour l'édifice. Nous n'avons rien besoin d'autre. Et je sais que cela est une nourriture solide. C'est enregistré dans les cassettes et des centaines dans le monde entier vont l'écouter. Mais avant de pouvoir expérimenter l'édifice de l'Église du Dieu vivant, selon Éphésiens 4, verset 16, Éphésiens 2, verset 20 à 22 et 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, il faut que toutes ces choses que ces insectes ont rongées soient d'abord restaurées. Nous allons devoir repartir à l'Église primitive pour voir ce qui a été rongé et de ce qui n'existe plus aujourd'hui parmi les croyants qui existaient dans ce grand cep, dans cette grande vigne du Seigneur. Il est le cep, nous sommes les serments. Avant que nous puissions savoir et avant que l'Église revienne dans son état primitif et dans la puissance qui était en elle dans l'Église primitive, il faut que nous puissions savoir tout ce que ces insectes-là ont rongé. Et c'est ainsi que l'Église va devoir être restaurée et revenir dans l'état dans lequel elle était au commencement. Sinon, elle ne sera jamais manifestée dans sa gloire et dans la puissance qui était en elle au commencement. Car si l'écorce d'un arbre est rongée, il faut que d'abord l'écorce repousse. Vous ne pouvez pas avoir de fruits de cet arbre, ce n'est que l'écorce a repoussé. Car c'est dans l'écorce qu'il y a la vie. Et la nuit de la vie. Et les Saintes Écritures sont la vie pour l'Église. Et comment est-ce que nous pouvons et mettre d'autres sortes d'écorce au sceptre original? Il faut d'abord que l'écorce du sceptre qui a été rongé repousse. Il faut que ce soit l'écorce originale de ce sceptre. Et la seule possibilité que cela se passe, il faut que ce soit Dieu lui-même fasse en sorte que cela repousse. La croissance doit venir de Dieu. Nous ne pouvons pas nous-mêmes produire une croissance ou bien inventer des écorces. Rien de ce qui vient des hommes pourra produire la vie. Non, cela manquera. Des choses inventées par des hommes ne pourra pas réussir. Vous pouvez essayer de produire la vie et dire maintenant sève, remonte dans le tronc. Cela ne pourra pas se faire. Il faut que ce soit Dieu qui laisse pousser d'abord l'écorce de l'arbre qui a été rongée. Et si cette sève, cette vie revient des racines, alors la même vie sera de nouveau aujourd'hui manifestée comme elle a été manifestée au commencement de l'Église primitive. Ça n'a pas d'étonnement que nous n'avons plus de. Nous ne pouvons pas avoir de lignée de prière et de guérison. Et que l'Église est divisée. Ce n'est pas étonnant qu'il y a toutes sortes de façons de voir et de penser parmi nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le véritable fruit de la patience et de l'amour, de l'humilité, de la paix et de la joie et de la tempérance. Pourquoi? Parce que la vie a été coupée de cet arbre et nous ne pourrons jamais la ramener, la restaurer par des doctrines et des façons humaines de voir. Ou bien en inventant des écorces. Non, il faut que ce soit la puissance de Dieu qui fasse en sorte que cette écorce repousse et pour que l'arbre soit restauré dans son état primitif. Tel que l'Église, tel que les Saintes Écritures l'ont dit. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ne peuvent pas le faire. Et aucun homme peut venir à Dieu ou bien à Christ si ce n'est que
Dieu l'attire. Il n'y a pas longtemps, j'étais justement en train de parler avec quelqu'un. Nous étions en train justement de penser à cela, à ce verset biblique. Et j'ai posé la question, mais pourquoi? Est-ce que les hommes ne peuvent pas le voir? Et alors j'ai dit, mais c'est justement cela. Et mes pensées sont allées à la parole. C'est important. Pourtant, comme cela est écrit clairement dans la Bible, et comme souvent la Bible dit, vous ne pourrez pas le voir si ce n'est que Dieu vous le révèle et vous le montre. Et toute la Bible est la révélation de Dieu, et l'Église est édifiée sur la révélation de l'Esprit de Dieu, sur la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Abel a apporté un sacrifice agréable, mieux, plus agréable, donc mieux que celui de Caïn? Pourquoi est-ce que Abel n'a pas suivi Caïn? Caïn était plus à l'aise, il avait un chemin plus facile. Mais à Abel, cela lui avait été révélé. De quoi il s'agissait? Par exemple, alors que Jésus descendait de la montagne de transfiguration, il a posé la question, mais qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Les uns disent, tu es Élie, l'autre Jérémie. Alors il a dit, et que dites-vous que je suis? Alors Pierre a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, béni sois-tu, heureux sois-tu, fils de Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Tu ne l'as pas appris dans un livre ou bien dans un séminaire ou bien alors par des doctrines faites par les hommes. Mais c'est mon Père au ciel qui te l'a révélé. C'est ainsi que c'est sur ce fondement que je bâtirai mon église. Et les portes du mort, des morts ne prouveront pas contre elle. Il s'agit de la révélation sur la parole de Dieu pour le temps présent. Dans Matthieu 11, 29 chapitre, il est écrit que le Seigneur Jésus a fait beaucoup de miracles. Beaucoup de signes et de miracles ont eu lieu en tant que preuve qu'il était le Messie. Et malgré tout, les hommes n'ont pas cru. Pourquoi? Isaïe l'a dit. Ils ont des yeux, ils ne le voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Quoi qu'ils étaient instruits dans la parole. Ils étaient des scribes et des pharisiens, des docteurs de la loi, dans la religion. Ils étaient saints et sans reproche. S'il y avait une seule faute qui avait été trouvée en eux, dans un point, dans les Écritures, on les aurait lapidés. Personne ne pouvait leur montrer du doigt. Ils avaient étudié les Écritures nuit et jour, d'après génération et à autre génération. Et malgré tout, Dieu a aveuglé leurs yeux. Dieu l'a fait. C'est ainsi que cela est écrit. Dieu fait ce qu'il veut faire. Nous ne pouvons pas lui prescrire ce qu'il doit faire. Quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons qu'il est écrit que Dieu a laissé Pharaon apparaître pour manifester en lui sa puissance, pour que sa puissance soit manifestée. La puissance de Dieu. Est-ce que Ésaü et Jacob, avant même qu'ils naissent, est-ce que Dieu n'avait pas dit qu'il a aimer l'un et qu'il a haï l'autre? Vous voyez, toutes choses doivent venir selon la prédestination de Dieu, la préscience de Dieu. Il n'est pas quelqu'un qui dort, non. Il sait toutes choses à l'avance. Nous avons regardé des hommes parce qu'ils nous semblaient sincères. Nous avons regardé des assemblées selon leur réussite. Et nous avons accepté des prédicateurs parce qu'ils sont grands. Non, cela n'est pas ce qui a de la valeur. Le ciel, la terre passeront. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui est important. Disait Jésus, elle demeure éternellement. Ce que le garçon a arrangé, a laissé, la sauterelle, l'a dévoré. Il y a quelque chose de faux. Car la parole de Dieu est éternelle comme Dieu lui-même est éternel. Et la parole de Dieu ne peut pas manquer et faillir comme Dieu lui-même ne peut pas faillir. Oui, il y a quelque chose de faux. Nous voulons voir ce qui est faux. Et le fondement, nous venons déjà de le poser, de le placer. N'oubliez pas votre texte. Romains 3, verset 4. Que chaque parole d'homme soit mensonge. Et que la parole de Dieu soit la vérité. Ça, nous voulons vraiment retenir cela. Aucun mensonge vient de la vérité, des Écritures. Que la parole de Dieu seule soit la vérité. Ça n'a pas d'importance ce que quelqu'un d'autre veut dire. Je voudrais citer quatre choses que je vois dans cette écriture qui ont été rongées de l'église du Dieu vivant. Nous admettons, nous avouons, vous méthodistes, vous baptistes, vous presbytériens, vous pentecôtistes, vous nazaréens, vous tous, avouez. Et ici, nous tous même qui sommes réunis ici, qui venons à ce tabernacle, nous avons qu'il y a quelque chose de faux. Et nous sommes aussi coupables comme tous les autres, même si nous venons ici au tabernacle. Car celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, pour lui c'est un péché. Jacques 4, verset 17. Nous voulons entrer dans ces choses maintenant. Je voudrais citer quatre choses en accord avec les Écritures, comme je le sais, qui ont été rongées de l'Église. L'Église, le jour de la Pentecôte, a été fondée. C'est Pierre qui a tenu la prédication de consécration, d'inauguration. C'est là que l'Église est née, le jour de la Pentecôte. Ça a été la naissance de l'Église. Et si Dieu est infini et qu'il ne peut pas changer, alors son Église doit demeurer la même telle qu'elle était au commencement. Est-ce que vous avouez tout cela? L'Église doit pour toujours demeurer dans le même état tel qu'elle était au commencement. Mais les hommes ont pris ces choses entre leurs mains et ils ont donné leur propre interprétation. N'essayez jamais d'interpréter la parole de Dieu. Dites seulement ce qu'elle dit. Et soyez en accord avec cela. Ne changez jamais la parole de Dieu. Car si la Bible dit car la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 et 20 que la parole de Dieu ne permet aucune interprétation particulière. Nous n'avons pas le droit de dire quelque chose de nous-mêmes. Nous avons seulement le droit de lire et de dire ce que nous lisons. Et de croire tel que c'est écrit. Ça n'a pas d'importance. Même si cela semble impossible, je le crois malgré tout parce que c'est Dieu qui l'a dit. La chair n'est pas un endroit où on raconte des blagues. Et ça, je ne veux pas. Je veux seulement dire quelque chose pour vous montrer ce que je pense. C'était un vieux frère noir. Il avait toujours sa Bible avec lui. Et son chef lui disait, mais tu ne sais pas lire, tu portes toute la Bible. Il dit, mais je crois ce qui est écrit dans cette Bible. Ça, c'est une bonne raison de la porter toujours. Il a dit, mais même si je ne peux pas lire, je sais ce qui est écrit, c'est vrai. Et il a dit, mais je crois même ce qui est écrit sur le verso de la Bible, c'est-à-dire Sainte Écriture. Et le chef lui a dit, mais Sam, si je te lis quelque chose de la Bible, et tu le feras? Il dit, oui, chef, je le ferai, car c'est le commandement du Seigneur. Alors il a dit, si je lisais, par exemple, que le Seigneur t'ordonne de passer par ce mur, comment est-ce que tu voudras passer par ce mur s'il n'y a pas d'ouverture? Il a dit, si tu me le lis des Saintes Écritures, alors je passerai par ce mur, parce que quand je vais arriver à ce mur, Dieu va ouvrir le mur. Parce qu'il m'a dit de passer là, il ouvrira ce mur et je passerai. Vous voyez, ça c'est la foi véritable. Vous pouvez vous abandonner entièrement à la parole de Dieu. C'est votre devoir de mettre la parole de Dieu en pratique dans la foi. Et de faire ce que Dieu a dit, sans regarder aux circonstances. Donc je voudrais, c'est certaines choses sur lesquelles je voudrais parler maintenant. Après avoir constaté que le fondement doit être original, nous devons revenir à l'original pour voir ce qui est faux. Et si le cèpe n'est pas tel qu'il doit être, alors nous devons constater d'où est-ce que cela vient. Et c'est ce que je veux mentionner. Ce qui a été rongé de l'Église, d'abord c'est la foi. Les gens n'ont pas, les croyants n'ont pas de foi aujourd'hui, comme il avait au commencement. Un insecte a rongé cette lignée de la vie, la foi. Ils ont transformé les choses. Ils appellent maintenant quelque chose, ce qu'ils appellent foi n'est plus la foi. Aujourd'hui, leur foi est fondée sur une grande église, sur une dénomination, sur une doctrine, sur une façon de voir. Mais Jude a écrit au troisième verset, il dit, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Pas pour une foi quelconque, mais pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Comme dans 2 Pierre chapitre 1, d'une même prix. Et ça, c'était à peu près 30 ans plus tard, après que cette foi vient. Il y a seulement une seule foi, un seul Seigneur. Éphésiens chapitre 4.
vous, que vous puissiez avoir une foi. Nous, nous voulons combattre pour la foi là. Combattre pour la foi bien précise qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Nous voulons combattre pour cette foi et nous lever pour cela. Combattre pour cette foi. Pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés saints? Parce qu'ils ont été sanctifiés. Ils étaient sanctifiés par le Saint-Esprit qui habitait dans leur cœur. C'est pour cette raison qu'ils ont été appelés saints. Oui, je dis ici que, bien aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exercer à combattre pour la foi. Ne n'abandonnez jamais cette foi qui a été transmise une fois pour tous les saints. Et la foi des saints n'était pas, ne contenait pas dans des doctrines, dans des dénominations, dans des groupes et dans des bâtiments, et pas dans la société. Mais elle était contenue dans la présence du Dieu vivant. Il croyait à la présence de Dieu pour guérir des malades, pour chasser des démons, pour faire des miracles. Toutes ces promesses que Jésus-Christ a faites, la première église s'attachait à ces promesses. C'était pour elle la lignée de la vie des croyants. Écoutez bien vous cela. Écoutez bien aimé frère, ce que je dis. La présence demeurante du Dieu vivant est la vie pour l'église et pour le peuple. La présence du Tout-Puissant qui demeure avec le croyant est présente. Elle est là pour agir, pour parler, pour vivre parmi les hommes, dans les hommes, tel qu'il a fait au commencement. Si la présence du Dieu vivant le jour de la Pentecôte, alors que la présence de la Pentecôte est descendue de telle manière, par des signes et des miracles, les hommes étaient tellement remplis de la gloire de Dieu qu'ils louaient et exaltaient et parlaient tel que l'Esprit leur donnait de s'exprimer en notre langue. Et ils ont été appelés martyrs, ils sont morts à cause de la foi. Nous voulons combattre sérieusement pour cette foi jusqu'à ce que la mort nous fasse quitter cette terre. Combattre sérieusement. Nous n'allons pas faire de compromis avec ce qui est écrit dans les livres, ou bien dans les livres de prière, ou bien ce que les hommes ont conservé comme théologie, ou bien sur certaines doctrines et façons de voir, ou bien ce que quelqu'un d'autre aurait dit. Ma foi est fondée sur rien d'autre que sur Jésus-Christ, sur son sang, sur sa justice. Il est toute mon espérance et c'est sur lui que je me tiens. Il est le rocher qui ne peut jamais branler et s'ébranler. Tout le reste est du sable mouvant. Pas de doctrine, seulement Christ. Pas de loi, seulement la Bible. Pas de doctrine, de livre de doctrine, non. La Bible doit dire ce que nous croyons. Et pas seulement le dire, mais toujours dire la même chose. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut que tout soit contenu dans la Bible. Toute la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Cela comme une unité, comme une seule parole. Si je pense que la Bible se contredit, ça veut dire que c'est la mauvaise interprétation. Comment est-ce que Dieu peut se contredire dans sa parole? C'est pas possible. Tel que ma chemise est constituée du même tissu, du même matériel. C'est ainsi que les Écritures sont contenues du même matériel. Ce sera une église sans tache, sans ride, irréprochable. Elle doit être contenue. Elle doit continuer de la même vie, du même matériel. Par le même Saint-Esprit rempli qui est descendu le jour de la Pentecôte sur l'église. Et a établi sa demeure sur cette terre. Vous ne pouvez rien ajouter à cela. On ne peut pas non plus prendre comme ça du lait et ajouter cela à... Non, non, non. C'est pas possible. Ça ne va pas se tenir. Il y a un ver qui est rentré et qui a rongé cette chose. Aujourd'hui, on dit, je crois à l'Église sainte. Non, je crois à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il manifeste sa puissance et la puissance de sa résurrection, aujourd'hui comme autrefois. Et parce qu'il vit, je vis aussi, pas par une doctrine, pas par une dénomination. Mais parce que Christ vit, je vis aussi. Je vis avec lui, par lui et en lui. Et sa vie se manifeste par moi. Si ce n'est pas ainsi, je ne peux pas me prétendre lui appartenir. Il ne s'agit pas de ma tête, il s'agit de mon cœur et de tout ce que je suis. Qu'il puisse vraiment vivre dans mon cœur, habiter en moi et m'apporter en accord avec sa parole. Je sais que parfois les choses sont écrites d'une manière qu'on ne peut pas tout de suite les voir. Mais j'ai dit que je remerciais Dieu et a dit de ce qu'il a caché ces choses aux sages ou intelligents, mais qu'il a révélé ces choses aux enfants. Dieu a eu un objectif en faisant cela. Pourquoi est-ce qu'il a laissé le péché venir? Il est plus grand que le péché. Pourquoi est-ce qu'il a permis que le péché vienne? Pour que son attribut de sauveur soit manifesté. Il aurait pu empêcher l'adversaire de faire le premier péché, de commettre le premier péché, bien sûr. Mais Dieu est manifesté en tant que sauveur. Pourquoi est-ce que les hommes sont malades? Parce que Dieu guérit. Et Dieu est juste. Il doit, devant chaque homme, mettre l'arbre de la vie et l'arbre de la conscience du mal. Comme il a fait avec Adam. Il doit placer ces deux arbres devant chaque homme pour que aussi chaque homme aujourd'hui encore se décide. Ça dépend de vous. Reconnaissez. Croyez. La véritable foi. La véritable foi. La vraie foi. Vous voyez. Vous voyez. Regardez l'église aujourd'hui. Regardez les pentecôtistes. Regardez les baptistes. Regardez les presbytériens. Regardez les nazaréens. Regardez les pèlerins. Et aujourd'hui, ceux qui viennent ici au tabernacle. Tous. Nous n'avons aucune excuse. Pourquoi? Parce que nous ne commentons pas pour cette foi unique. Il y a des disputes qui parfois parmi les croyants, même ici, parmi le tabernacle. Alors on forme un groupe. Les uns vont de ce côté, les autres vont de l'autre côté. C'est ça, combattre pour la foi. Chrétiens, pas pour toutes. Les uns se réunissent là, les autres là, dans la même ville. Est-ce que c'est ça, combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes au sein? Non, jamais, frères et sœurs. Autrefois, il y avait eu ce cas entre Ananias et Séphira. Dieu est encore le même Dieu. La crainte doit revenir dans l'église. Nous avons vu ces choses. Aujourd'hui, on ne peut pas se saluer, on ne peut pas se voir. Les uns parlent des autres et ils disent ma foi n'enseigne pas cela. Ils disent que les miracles sont passés. Alors, ça veut dire que vous ne combattez pas pour la foi qui a été transmise pour vous tous au sein. Selon Ephésiens chapitre 4, verset 3. En conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et Philippiens 1, verset 27. Je crois que le véritable Saint-Esprit est présent. Ça, je le crois. Et c'est pour cela que je combats. Je crois au parlant langue. Oui. Vous dites, je ne crois pas à la guérison divine. C'est vrai, il y a beaucoup de fanatisme. Mais nous croyons que Dieu est présent et que c'est lui qui guérit les malades. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. J'ai vu beaucoup de choses que des gens appellent donc du discernement. Mais j'ai vu aussi que Dieu est véritable. Il révèle des choses et tout ce qu'il révèle s'accomplit et est vrai à chaque fois 100%. Cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Oui. Il y en a qui appellent une vision, un songe, ce qu'ils ont reçu la nuit après avoir mangé trop tard, trop, et aller se coucher avec l'estomac rempli. Mais il y a des véritables songes qui viennent de Dieu. Dieu a promis de le donner. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il révèle est jamais faux. La Bible dit, si quelqu'un est parmi vous et qu'il est un prophète, et que ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le. Ça veut dire que je suis avec lui. Mais si cela ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Dieu ne peut pas mentir. Dieu à chaque fois dit la vérité. C'est ainsi que c'est. Nous savons que c'est vrai. Regardez à Paul. Toute espérance était passée. Le diable se moquait de lui. Et la tempête a dû être terrible. Cet homme était resté 14 jours et 14 nuits sur le bateau. Et comment est-ce que ce bateau avait été apporté d'ici et là, et il avait été enchaîné par une chaîne parce qu'il prêchait l'évangile. Et nous mettons déjà en colère quand quelqu'un parle de nous. Ou bien nous offense. Oh, qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous voulons combattre sérieusement pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Nous devons encore apprendre beaucoup de choses ici. Qui doit être mis en ordre. Et aussi vous les pentecôtistes, et vous les baptistes, et vous les nazaréens. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas aller de l'avant. Parce que nous ne pouvons pas, sincèrement, de face à face, venir devant Dieu et croire ce que Dieu a dit. La foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Transmise. Mais ce verre, ces insectes sont rentrés et ont rongé tout. Aujourd'hui, il est écrit, oh ça, je ne peux pas croire, ça, c'est là, je ne peux pas croire. Si Dieu a manifesté ça, la première branche du cèpe, le jour de la Pentecôte, c'était une branche de la Pentecôte, avec des visions, avec des prophéties, avec des signes, des miracles et des résurrections. C'était la première branche du cèpe, le pentecôtisme, la Pentecôte. Et si Dieu manifeste une deuxième branche du cèpe, chaque branche sera comme était la première branche du cèpe. Tel que hier soir, je l'ai dit, alors que je parlais à un groupe de frères, Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un sceptre produise des courges ou bien des potirons ou bien des citrouilles. Ou bien qu'un potiron produise des sarments. Ce n'est pas possible. La vie dans l'arbre est manifestée par le fruit. Si la vie de Jésus-Christ est en nous, nous allons devoir être comme lui et porter ses fruits. Ce n'est pas possible autrement. 1 Jean 2, verset 6. Il faut que ce soit la même vie. Car c'est la même vie qui est en nous. Il faut que ce soit le même fruit. Quelque chose d'autre ne peut pas être alors produit. Vous allez marcher comme lui, être semblable à lui, parler comme lui, penser comme lui, guérir comme lui, voir des visions comme lui. Ce sera à chaque fois parfait. Parce que c'est sa vie qui est en vous. Nous sommes seulement qu'un vase. L'homme est comme un tuyau. Il n'est pas l'eau. Il est seulement le tuyau. Si vous ôtez l'eau de lui, le tuyau va sécher. C'est comme ça aussi. Vous qui avez eu une expérience avec Dieu autrefois, vous les pentecôtistes. Mais permettez que l'eau puisse encore couler aujourd'hui. Que l'eau soit toujours présente pour que le tuyau demeure pur et propre. J'ai une fois parlé de cela. Que au printemps, quand il pleut et que la neige fond et que des champs, toutes ces choses, ces saletés sont emportées avec l'eau. C'est ainsi que les choses qui ne sont pas en ordre dans l'église doivent être mises dehors. Cela peut seulement avoir lieu par l'eau de la parole. Nous voulons revenir au sang. Nous voulons être baignés dans ce sens pur. Rien d'autre pourra nous conserver pur dans ce temps. C'est le prédicateur. Parce qu'il pensait que je crois en ce que Dieu conserve son église telle qu'elle était au commencement. Et que si quelqu'un devient croyant et qui tombe, et qui retombe, malgré tout, il sera auprès de Dieu. Mais regardez, personne ne peut venir à Dieu si ce n'est que cela lui est révélé. Et tous ceux qui viennent à lui sont passés de la mort à la vie. Ils sont passés de la mort à la vie. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Dieu les a appelés. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, on dit, aujourd'hui, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Et vous pouvez aujourd'hui être sauvé et de nouveau être perdu. Ne croyez pas ces choses, c'est un mensonge. Ou alors vous êtes né de nouveau et toute votre nature est morte, est transformée. Et si cette vie du sceptre entre en vous, alors vous n'allez plus produire des citrouilles, mais des potirons, mais des courges. Et s'il y a quelque chose de fou en vous, alors vous allez tomber sur votre face et ne pas vous lever jusqu'à ce que Dieu vous ait aidé et secouru. Vous voyez, la citrouille par exemple est proche du tort, elle est à terre. Mais les raisins poussent. Et pas sur terre, pas sur la terre, pas sur le sol. Oh, nous voulons combattre, pas seulement combattre, mais combattre entre la vie et la mort pour cette foi unique. Oh, nous pourrions rester si longtemps. Nous voulons continuer. La deuxième chose qui a été rongée, c'est l'amour fraternel. L'amour fraternel a été rongé. Jésus-Christ disait, c'est en cela que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous aimez les uns avec les autres, les uns les autres. Nous voulons prendre un exemple. Si quelqu'un ne croit pas ce que je crois, je vais quand même auprès de lui et je prêche ce qu'il croit parce que je l'aime. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. S'ils n'ont pas l'amour fraternel les uns pour les autres, alors ils se divisent, ils ne se réunissent pas ensemble et ils disent, oh, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Vous l'avez dit, que vous ne savez pas ce que je crois. Et quelle différence cela fait, ce que nous croyons? Ce qui est important, c'est en qui est-ce que je crois et en qui je crois, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Jamais j'ai causé une division dans une assemblée. Mais, parce que l'amour fraternel a été rongé. Et Paul a dit que l'amour fraternel doit demeurer. Il a dit de ne pas laisser régner de division. C'est écrit dans 1 Corinthiens, le premier chapitre. S'il vous plaît, écoutez bien. Nous allons maintenant entrer dans la nourriture solide. À chaque fois que ronge quelque chose de l'arbre original, si par exemple c'est l'écorce de l'arbre, alors il va remplacer ça par une substitut, par des choses qui viennent des hommes. Alors que l'écorce est ce qui permet à la sève de revenir des racines et de monter. C'est pour cette raison que nous n'avons pas de réveil. Parce que l'écorce a été rongée et la sève ne peut pas remonter par le tronc et alimenter les branches.
Il y a frère Branham qui disait, pardon, frère Graham qui disait alors qu'il était en Angleterre. Là-bas, il a pris sa femme dans un parc pour lui montrer comment est-ce que les gens et les hommes et les femmes vivent, et se comportent d'une manière immorale. Dans le public, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui viennent des hommes. Au lieu d'avoir les corps originales. Et la vie ne sera pas manifestée. Si les croyants sont enveloppés dans des doctrines et des pensées d'hommes, la puissance de Dieu ne pourra pas se manifester. Ils diront, le temps des miracles sont passés. Et la sève retombe. Oh, je sais que vous dites que je suis fou. Si je le suis, alors laissez-moi seul. Je me sens très bien. La parole de Dieu, s'il est écrit, je suis le Seigneur, je ne change pas. Comment est-ce qu'il peut s'être maintenant changé? Non. Comment est-ce que cela a commencé au commencement? Alors qu'ils n'avaient pas encore de dénomination. Et ce sont des hommes qui ont essayé de remplacer l'amour fraternel par la dénomination. L'amour fraternel a été rongé par les groupes qui existent partout. Montre-moi où est-ce que Dieu a eu une dénomination ou bien une religion. Ou bien montre-moi où est-ce qu'il aurait fait son église, de son église une dénomination. Ou bien montre-moi est-ce qu'une dénomination serait l'église de Dieu et qu'elle serait tombée et qu'elle se serait relevée. Quand je suis revenu du voyage, j'ai beaucoup lu des livres. J'ai lu les livres sur le martyr, sur Joseph Fuss, les deux Babylone et les âges passés par Timmerman et les pères de Nicée et aussi le concile de Nicée. Et jamais, jamais une dénomination a existé que Dieu aurait ordonné dans la Bible. Si nous faisons des dénominations, nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Un ver a rongé toutes ces choses qui s'appellent dénomination. L'écorce originale de l'amour fraternel a été rongée. Et ils ont remplacé ces choses par des groupes et des limitations. Et si la vie de Dieu se manifeste et sort de la racine par le rejeton de David, par le Saint Esprit, alors ils disent que les temps des miracles sont passés. Vous n'avez pas besoin de parler en langue, vous n'avez plus besoin du baptême du Saint-Esprit, de le recevoir. Il n'y a plus de guérison divine, etc. Vous n'avez plus besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Hein? Et c'est comme ça qu'ils remplacent toutes ces choses par des substituts. Un arbre en bonne santé n'a pas besoin de recevoir des vaccins. Pourquoi est-ce que vous le faites à cause de tous les vers qui ont rongé l'arbre? Pourquoi est-ce que cela doit être fait? Pourquoi un vaccin? Parce que l'arbre n'est pas en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en bonne santé? Parce que ce sont des doctrines et des dénominations qui ont remplacé la vie et l'amour fraternel. Ça, c'est l'absolu. C'est vrai. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes ont rongé l'amour fraternel. Ils ont essayé par des dénominations de remplacer cela et d'amener les hommes sous la politique. Dieu ne veut pas nous unir dans la politique et dans des doctrines. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Ça, c'est la véritable union. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Oh, que Dieu puisse remplir notre cœur et qu'il puisse nous faire devenir un en Christ. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. Nous ne pouvons pas prétendre être prêts sans cela. Mais cela a commencé déjà très tôt, après la mort du Christ, après sa résurrection, après la mort des apôtres. 300 ans plus tard, c'est ainsi qu'ils ont fait le concile de Nicée. Et la première église a été formée, qui était l'église catholique. Ensuite, Luther est sorti. Wesley et les pentecôtistes sont sortis. Et tous ces autres, comme Nazaréens, les baptistes, les pélériens et tous les autres, ils sont sortis de cette organisation. Mais plus tard, ils se sont de nouveau organisés dans le même esprit dénominationnel. Quand Dieu accorde une bénédiction, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font une barrière, ils font un groupe. Dieu veut briser toutes les barrières et les groupes. Je me rappelle, alors que pour la première fois, j'étais allé à l'ouest, au Kansas, et je vois là-bas tous les cow-boys. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'un tracteur ou bien une machine à coudre. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'ils s'occupaient de leur bétail. Mais quand la machine, la moissonneuse batteuse était venue, j'ai vu quelqu'un qui avait une longue barbe. Et il a dit, je ne peux pas voir que partout des barrières sont construites, sont édifiées. Et cela là, a fait en sorte qu'en lui, qu'il ne pouvait pas supporter de voir des barrières. Il ne pouvait pas comme ça se voir dans des barrières, tous ces grands bâtiments. Et des, des larmes ont coulé de ses yeux. Et maintenant où le soleil est en train de se coucher, que Dieu puisse accorder sa grâce. D'avoir des pèlerins qui sont là, qui ne sont pas comme ça, dans des barrières, dans des dénominations, dans des groupes, pendant que le soleil est en train de se coucher. Que nous puissions avoir une foi qui n'est inébranlable. Nous voulons combattre une fois pour toutes, pour cette foi qui a été transmise par vous pour les saints. Et que par cette et par cela, que cette foi authentique soit manifestée. Ce que Dieu a dit, nous disons amen à cela. Nous voulons combattre ensemble dans l'amour fraternel pour cette foi qui a été transmise par vous tous les saints. Colossiens 1, Philippiens 1, verset 27. Il y a des femmes qui ont été obligées de donner un sacrifice à leur enfant. Ils étaient obligés de donner un baiser au sacrifice, au crucifix. Sinon, ils étaient brûlés à vif. Des femmes qui étaient enceintes ont dû passer par des temps difficiles de cette manière. Mais les martyrs se sont tenus là et ils n'ont pas renié leur foi. Ils savaient les choses pour lesquelles ils se tenaient et en qui ils croyaient. Ils savaient que Dieu est capable de les ressusciter. Car ils ne voulaient pas se soumettre devant des choses souillées, faites des hommes. Ils voulaient de préférence mourir que de renier leur foi. Moi aussi, laissez-moi mourir de la même manière. Si mon Dieu ne vient pas, alors je vais mourir de la même manière. Je vais croire que Jésus-Christ et son Église est la même et est le même. Il est le même et son Église est la même puissance. Aujourd'hui éternellement. Et elle ne peut pas se manifester parce que toutes ces dénominations et tous ces différents groupes et sont en train de détruire et ronger tout. Et ils nous laissent tomber comme une pomme de terre chaude. Mais j'appellerai à sortir et je prêcherai la vérité. Et Dieu restaurera son Église dans son état primitif. Dans l'état primitif, le jour de la Pentecôte, il n'y avait pas de division. Ils étaient un seul cœur, une seule âme. Peut-être que cela blesse, je ne voulais pas vous le dire. Mais regardez, les premiers chrétiens étaient un seul cœur et une seule âme. Regardez tout ce qui s'est passé dans les temps des organisations. Et cela a brisé l'amour fraternel. Quand ils avaient l'amour fraternel, ils n'avaient pas besoin de groupe. Ils se réunissaient ensemble. Ils s'aimaient. Ils allaient de l'avant ensemble. Il n'y avait personne qui parlait l'un de l'autre. Mais quand ils ont commencé à penser qu'ils n'ont pas besoin d'amour fraternel, mais il est écrit, c'est là que tous les problèmes ont commencé. Mais il est écrit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. C'est ainsi que Luther est sorti de toutes ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Ils ont fait de nouveau une organisation. Calvin est sorti. Wesley. Ensuite les baptistes et les presbytériens. Jusqu'à l'église pentecôtiste. Et les nazaréens. Et les pentecôtistes. J'espère que le retour du Seigneur est très proche. Car les pentecôtistes ont fait la même chose que les autres. Et Apocalypse 17, il est écrit que l'église catholique était la prostituée. Et tous les autres étaient ses filles. Elles étaient des prostituées, au pluriel, bien sûr, dans la Bible, vous pouvez les lire. Dans Apocalypse chapitre 17, il est écrit. Oui. Et les autres étaient ses filles. Oui. Ce n'était pas des hommes, parce que des églises sont toujours symbolisées dans la Bible comme des femmes. Et il a dit que ses filles étaient des prostituées. Oui, la même chose que la même. Comment? De la même manière. Ils ont commis la prostitution spirituelle en face de la parole de Dieu. Vous voyez? Ils ont pris les dénominations et ils ne combattent plus pour la foi qui a été transmise une fois pour toute sang. Comment? Parce qu'ils sont divisés. Nous ne pouvons pas combattre pour cette foi étant divisée. Ce n'est pas possible. Nous devons revenir à l'amour fraternel. J'ai eu à parler de cela. Il y a quelqu'un qui me parlait en ce qui concerne le baptême, une certaine personne. Et je lui ai dit, il n'y a rien dans votre église et que vous enseignez, que vous pratiquez, qui est en accord avec cette Bible. Oui. Car il voulait que je parle du baptême du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, est-ce que tu sais que l'église catholique autrefois a baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Cela est écrit dans notre catéchisme. Je lui ai dit non. Vous êtes la première organisation qui a introduit la fausse église et le faux baptême. Oui. Il a dit, mais nous croyons au catéchisme. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec l'église, avec l'histoire de l'église? Tant que nous savons qu'il y avait Abraham Lincoln qui était là par l'histoire, c'est ainsi que aussi nous avons l'histoire de l'église. Et je lui ai dit, jamais l'église catholique a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ils étaient le fondement. Ils étaient le fondement du faux baptême. Alors il m'a dit, mais nous sommes l'église. Nous avons le droit de transformer ces choses, de changer ces choses, car Dieu est dans l'église. J'ai dit, non, Dieu est dans ta parole. Si une église n'est pas en accord avec la parole, elle est fausse. Laissez la parole de Dieu être la vérité. Et que chaque parole d'homme soit mensonge. Romains chapitre 3. Que sa parole soit juste. Revenez à sa parole. Vous voyez ce que les vers ont rangé. Bon, du temps des pères nicéens, dans le concile de Nicée, il y avait eu un grand argument. Que, est-ce qu'il y a un seul Dieu ou bien trois dieux? Le Père est un, le Fils est le deuxième, et Dieu le Saint-Esprit est le troisième. La troisième personne. Et ils ont commencé qu'il y en a trois dieux. Ils ont commencé à dire qu'il y a trois dieux. Ouais, si vous ne le croyez pas, je peux vous le lire de la description du contexte de Nicée. Ils l'ont fait. Ils se sont formés trois dieux. Il y a seulement un seul Dieu. Seulement un. Il est Jéhovah Dieu. Le grand je suis. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Oui. Et ces choses, pour rendre cela juste, ils ont essayé d'inventer quelque chose pour ajouter quelque chose à cela. Alors ils ont dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Une telle chose n'existe pas. Ce ne sont pas trois dieux. Ça vient du paganisme. Ce sont trois manifestations du même seul unique Dieu. Dieu en tant que Père. En tant que Dieu était seul dans sa sainteté, dans sa loi, dans sa justice, entouré de tout cela. Ensuite, il voulait se révéler à l'homme. Et il voulait que les hommes aient communion avec lui. Alors, il a revêtu Marie de son homme. Et Jéhovah, Dieu, c'était lui. Et en elle, il a créé une cellule. Et cette cellule a grandi et l'homme Jésus-Christ s'est manifesté. Le Dieu vivant, le Père, est venu sur lui alors que Jean était en train de le baptiser. Tel que Jean disait, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui en forme d'une colombe et rester sur lui et la voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Jésus-Christ a dit, moi et le Père nous sommes un. Pas que Christ est un avec Dieu, mais Dieu était en Christ et a reconstitué le monde avec lui-même. Vous, frères unitaires, vous êtes aussi dans la fausseté. Vous dites que Dieu est un comme ma main est un. Oui, il ne peut pas être son propre père. Mais Dieu est Jéhovah. Tel que lui, Dieu est esprit. Il a voulu se former une maison dans laquelle il peut habiter sur cette terre. Et ensuite, pouvoir verser son sang qui est pur et saint pour que il puisse nous racheter et ensuite pouvoir habiter aussi dans notre cœur. Et il habite en nous par le Saint-Esprit, lequel est le même Dieu. Dieu en nous maintenant. Il sera avec nous et il sera en nous et il agira par nous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que j'ai faites, il les fera. Et les œuvres qu'il a faites, nous les ferons aussi. C'est ce qu'il a dit. Ces choses ont été rangées par les pères. Il dit, Dieu le Père est assis dans la gloire. Dieu le Fils est assis et à sa droite. Tel que cela est écrit dans la Bible, alors que Étienne avait été lapidé, il avait vu le Fils de l'homme à la droite, assis à la droite de Dieu. Cela veut dire que il est l'autorité puissante, l'autorité, tout, il est le pouvoir. Il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre comme au ciel. Il est l'autorité suprême. Dieu était en Christ. Oui. À la droite, c'est-à-dire, il est l'autorité. En lui habitait toute la divinité corporellement. Si vous voyez trois dieux individuels, vous êtes des païens comme cela ne peut pas l'être plus. La quatrième chose, alors qu'ils ont formé ces trois dieux, alors ils ont dû alors chercher un baptême pour cela. C'est ainsi que le diable a aveuglé leurs yeux sur Matthieu 28, verset 19, où il est écrit de les baptiser dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner tous les peuples, etc. Le diable a aveuglé leurs yeux. Ici, je vais devoir vraiment frapper le clou pour bien le placer. Ça va faire mal, mais je dois le faire. Que Dieu nous aide pour que nous puissions voir cela. Sondez vous-même dans les Écritures. Et si vous trouvez dans la Bible que quelqu'un dans la Bible aurait été baptisé dans ces trois titres, Père, Fils, Saint-Esprit, alors vous êtes obligé de me le montrer. Vous voyez, le diable fait des Écritures quelque chose pour lesquelles ils ne sont pas déterminés. Il est venu même à Jésus avec les Écritures et il a dit, il est écrit. Qu'il ordonnera à ses anges et qu'ils te porteront, etc. Et tu ne vas pas trébucher sur une pierre. Mais il a essayé des Écritures de faire quelque chose pour laquelle il n'était pas déterminé. Mais Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Et la révélation de Dieu était en lui. Si un homme est rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu va lui révéler sa parole originale. Ici, il est écrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jamais, jamais, à l'époque du concile, un homme aurait été baptisé dans le titre. Jamais auparavant. Cela a commencé avec le l'organisation catholique après le concile de Nicée. Mais comment est-ce que vous pouvez voir ces choses si Dieu ne n'ouvre pas vos yeux? Je prie pour qu'il le fasse, pour qu'il le fasse, pour qu'il le fasse. Nous voulons ouvrir les Écritures. Nous voulons ouvrir les Écritures. Matthieu 28, verset 19. Comment est-ce que vous avez été baptisé? Au nom du Père, au nom du Fils et du nom du Saint-Esprit. Cela n'est pas écrit comme ça. Vous dites que vous dites la Sainte Trinité. Montrez-moi cela une seule fois dans la Bible. Ce sont des choses qui viennent de l'homme. Cela n'existe pas dans la Bible. Une Sainte Trinité n'existe pas. Cela est venu des églises. Mais cela n'est pas à trouver dans la Bible. Non. Une telle chose n'existe pas. Si vous le trouvez dans la Bible, vous êtes obligé de me le montrer. Dans les Saintes Écritures de Dieu, cela n'existe pas. Et la doctrine, la fausse doctrine sur le Père, Fils et Saint-Esprit est sortie de l'enfer. Il n'y a rien. Il n'y a pas trois dieux. Moi, je crois en Dieu le Père. Je crois qu'en tant que Fils, il s'est manifesté. Et en tant que Saint-Esprit aussi, il se manifeste. Mais il demeure le même Dieu. Ouais. Jésus-Christ n'a pas toujours répété et dit trois fois, baptisez-le au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Mais il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom, au singulier. Pas toujours répéter les noms, mais ici, il s'agit du nom au singulier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, Père, Fils et Saint-Esprit. Bon. Regardez, ici il est écrit par l'apôtre Ouin, le jour de la Pentecôte. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Bon, l'église a été consacrée. Elle avait été fondée. Maintenant, la première prédication devait être tenue. Dieu par Simon-Pierre, parlant. Jésus-Christ lui a donné la clé. Il a dit, je te donne les clés du royaume, Pierre. Ce que tu lis est lié au ciel, sur terre. Ce que tu dis sur terre, à sa valeur au ciel. Écris et parle. Cela sera ainsi. Ce que tu lis sur terre sera lié au ciel. Et alors que les gens étaient venus se réunir en foule, ils ont demandé, qu'est-ce que signifient toutes ces choses? Ils parlent la langue et ils glorifient Dieu. Et Pierre a dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est ainsi que vous recevez le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jusqu'aujourd'hui encore, ils ont ajouté à cela cette formule, Père, Fils, Saint-Esprit, qui n'a pas été donnée ici par Pierre. Aujourd'hui, ils disent, oui, vous n'avez pas besoin de parler en langue, la puissance n'existe plus. On confessait seulement cela, mais cela est empoisonné par le diable. Si vous avez reçu la même chose que les croyants ont reçu le jour de la Pentecôte, vous allez agir, vous comportez tel qu'ils se sont comportés et vous allez baptiser tel qu'ils ont baptisé. Ce que le gazan, c'est ainsi que ce que l'un des vers a laissé l'autre l'arranger. Tous étaient baptisés, juifs et païens, au nom de Jésus-Christ. Et celui qui n'avait pas été baptisé comme ça devait se laisser baptiser. De cette manière. Oui, montrez-moi où est-ce qu'une unique personne aurait été baptisée dans la formule Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible. Montrez-moi ça. C'est plus clair que mes cinq mains qui sont devant vous. Mais vous ne pouvez pas les voir si ce n'est que Dieu vous ouvre vos yeux. Et si cela n'est pas la véritable révélation, alors ça veut dire que Pierre n'avait pas non plus la véritable révélation. Car lui-même, il a entendu ces paroles de la bouche de Jésus, baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. À lui avait été révélé que ce nom-là est Jésus-Christ. Et Dieu nous a révélé la même chose aujourd'hui. Et les gens de la Trinité ont la mauvaise révélation. Et la vie de Dieu ne se manifeste pas par eux. Et ils tuent les patients. Combien nous pourrions encore dire, le corps est rongé dans toutes ces choses fausses, on pourrait encore mentionner, qui sont pratiquées. Je voudrais encore expliquer cela plus proche. Je voudrais maintenant que vous puissiez prendre votre Bible. Je voudrais le rendre plus simple, tellement simple que même les enfants ne comprennent. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 1. Si vous avez lu le dernier chapitre de Matthieu, le dernier verset, vous devez aussi lire le premier verset. Bon, ici voilà la Bible. L'un devait être père, au milieu c'est le fils, et à ma droite, la Bible qui est à ma droite, ce sera le Saint-Esprit. Croyez-vous que Dieu le Père est le Père de Jésus-Christ? Ça, je le crois de tout mon cœur. Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, regardez maintenant dans la Bible, et ou bien à la maison. Matthieu chapitre 1, verset 18. Comme souvent j'ai eu à le dire, si vous lisez une histoire et que vous êtes à la fin, Marie et Joseph vivaient à partir de là et joyeux, alors nous devons comprendre qui est cette Marie et qui est ce Joseph et de quoi il s'agit. Vous devez alors lire un livre à partir du dès le commencement. S'il est écrit à la fin, baptisé au nom du Père. Je vous pose la question, est-ce que Père est un nom? Sûrement pas. Au nom du Fils. Est-ce que Fils est un nom? C'est son titre. C'est une désignation. Exactement comme Père. Est-ce que Saint-Esprit est un nom? Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Vous dites Saint-Esprit est une désignation. Comme nous les hommes. Nous, en tant qu'hommes, nous sommes une désignation de ce que nous sommes. Nous sommes hommes. Ce n'est pas un nom, nous ne nous appelons pas homme, c'est ce que nous sommes. Il est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas son nom. Si Père n'est pas un nom, si Fils n'est pas un nom, si Saint-Esprit n'est pas un nom. Alors, quel est alors le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Jésus, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, Père n'est pas un nom. S'il est écrit par exemple, baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre s'est tourné, il a dit, c'est le nom du Saint Jésus-Christ. Et cet ordre a été suivi par dans toute la Bible. Qu'est-ce que les organisations ont fait? Ils ont fait des dénominations. Ils ont fait des barrières. Et je préférerais boire seulement de l'eau et manger du pain sec. Mais laissez-moi apprécier la vérité. Et je préfère mourir. Aucun pape, aucun cardinal ne pourrait se tenir devant cet enseignement de la Bible. Mais ce que les méthodistes ont laissé, les baptistes ont rangé. Et ce que les baptistes ont laissé, les pentecôtistes ont rangé. Vous voyez, la lignée, la vie de Dieu n'est plus dans l'église, n'est plus dans les croyants. Qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Où est-ce qu'il a été créé? Baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms. Alors nous voulons savoir, comme par exemple, l'histoire de Marie et Joseph, regardons dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Comment? Par la vertu du Saint-Esprit? Je pensais que vous dites que Dieu était son père. Comment est-ce que Dieu peut être son père et le Saint-Esprit être son père? Si ce sont deux différentes personnes, est-ce que vous voyez vous trinitaire et vous énervez à cause des unitaires? Dieu doit appeler les choses telles qu'elles sont. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il est écrit que la naissance de Jésus-Christ s'est passée comme ça, alors que Marie, sa femme, sa mère, avant qu'ils soient venus ensemble, elle fut trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors, Dieu le Père n'a rien à voir avec ça, alors. Si Dieu, le Père et le Saint-Esprit ne sont pas la même personne, alors ça veut dire que Jésus a eu deux pères. Et il serait donc engendré par deux différents esprits. Mais la naissance de Jésus-Christ a eu lieu par la vertu du Saint-Esprit. Croyez-vous tout cela? Alors ça veut dire que Dieu le Père et le Saint-Esprit sont la même personne, sont le même esprit. Parce que Dieu est esprit. Ici, il est écrit encore. Tout cela s'est accompli afin que la parole s'accomplisse que le Seigneur avait prononcé par la bouche des prophètes. Qui disait, verset 22, maintenant le verset 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Quoi? Alors, quel est le nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit? Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Bon, qu'est-ce que c'est que Père, Fils et Saint-Esprit? C'est Seigneur Jésus-Christ. Car Père, Fils et Esprit ne sont pas des noms, mais ce sont des titres. Ce sont les trois manifestations de Dieu révélées dans une seule personne, en Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité, frère. Je me tiens pour cela, devant le jugement que Dieu m'aide. On dit aujourd'hui, oui, le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Non, Dieu est en nous, Dieu est avec nous. Car il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Pas une autre personne, mais le même Saint-Esprit, le même Dieu. Vous voyez, le Seigneur Jésus était le temple dans lequel Dieu habitait, car Dieu est esprit. Bien sûr. Maintenant, Jésus n'était pas éternel. Maintenant, il est éternel, car Dieu a enlevé ce corps sur son trône. Nous aussi, aux yeux de Dieu, déjà depuis l'éternité, nous étions élus et nos noms sont inscrits, ont été écrits même avant la fondation du monde, dans le livre de la nuit immolée. Combien savent que dans la Bible, il est écrit que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de la nuit immolée, avant même la fondation du monde. C'est ainsi qu'au nom, aux yeux de Dieu, ils étaient déjà là, dans l'éternité. Mais quand notre temps est arrivé, nous avons été manifestés sur cette terre, dans un corps de chair. Ici, vous me connaissez maintenant, en tant que William Branham. Mais Dieu me connaissait déjà dans ses pensées. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une parole? Une parole, c'est une pensée qu'on a exprimée. Et Dieu avait dit, laissez-le venir, et je suis venu. Et s'il appelle encore, je reviendrai. J'irai à lui. Car une parole est une pensée exprimée. Car il a exprimé ses pensées dans sa parole. Et s'il le dit, alors cela s'accomplit. Et s'il appelle encore, je repartirai à lui. Ça, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Omniscient qui est partout, qui sait tout. Oui, mais ils doivent développer un faux baptême. Mais cela, toutes ces choses leur sont cachées. Le monde ne le voit pas. La vérité ne va pas monter dans leur cœur. Et cela ne peut pas être vu si Dieu ne le révèle pas. Bon, nous voulons venir à la fin avant de prier pour les malades. Je suis resté plus longtemps que je le pensais. Et rappelez-vous, j'ai encore quelque chose que je vais vous dire, que je dois vous dire. Bon, Père, Fils et Saint-Esprit est un seul vrai Dieu. Il a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ le Seigneur est né. Christ veut dire le oint. Seigneur veut dire propriété. Et Dieu est descendu et a habité en lui. Cela a fait de lui Père, Fils et Saint-Esprit. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Lui qui était et qui est et qui viendra. La racine et le rejeton de David. Les deux. Rejeton et racine. La lumière, ça c'est le premier et le dernier. L'étoile du matin. Oui. Ce que le gazon a rangé. Comment est-ce que vous pouvez adorer si vous ne savez pas comment adorer? Comment vous pouvez être rempli de Saint-Esprit si vous n'avez pas l'Esprit? Si vous êtes lié à des doctrines et rempli de doctrines, vous pouvez être religieux. Oui, ça peut être peut-être des œuvres morales et religieuses. Mais vous avez besoin du véritable, authentique Saint-Esprit qui peut seulement être reçu par la prédication de la parole de Dieu. Authentique. Et si l'Esprit de Dieu vient sur vous, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous la révélera. Il vous montrera les choses. Il prendra ces choses que je vous ai dites et il vous les révélera et vous les montrera. Le Saint-Esprit le fera. Bien sûr. Ce que l'un des insectes a laissé, l'autre l'a rangé. Ce que les catholiques ont laissé. Les luthériens l'ont rangé. Etc. Jusqu'au mouvement patriotiste. Où est-ce que c'est arrivé ça maintenant? Tout cela, ce sont des rencontres du péché. Combien de choses d'autres encore sont enseignées? Ils font que se serrer les mains et de souhaiter la bienvenue aux autres dans l'église. Hein? Ils aspergent les enfants. Les autres font la même chose. Où est-ce que cela est enseigné dans la Bible? Le mot baptême veut dire être enseveli. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Oh, si on avait du temps, on pourrait encore continuer avec ces fautes choses et les citer. Je vous dis, mes bien-aimés frères, un jour, je me tiendrai avec vous devant le jugement. Avec vous, je dois rendre compte de ce que je prêche. Je ne vais pas devoir rendre compte d'un livre de doctrine, mais de la Bible, je dois rendre compte. Jamais quelqu'un dans la Bible aurait reçu cet esprit sans que la puissance de Dieu, par le parler en langue et par les prophéties, etc., se soit manifestée. Ce n'est pas un endroit dans la Bible. Il n'y a pas d'endroit dans la Bible où ils auraient été baptisés autrement d'eau en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Personne dans la Bible a enseigné la Trinité. Écoutez, Israël, moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu unique et seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Pas trois dieux, mais un seul Dieu. Il est Dieu éternellement. Il était Dieu, il est Dieu et il sera Dieu. Mais les dénominations vous racontent des histoires. quand vous venez avec, il vous laisse tomber quand vous venez avec l'amour fraternel et vous prêchez la vérité. Nous voulons vous prêcher, n'est-ce pas, ce qui servait à votre salut. Mais parce que vous restez avec la parole de Dieu, on vous met de côté. Il y en a qui ne veulent pas que les enfants de Dieu se nourrissent vraiment du pain de la vie. Ici est le pain de la vie, la parole de Dieu. Et dans l'amour de Dieu, j'invite chacun de vous, montrez-moi une seule chose que j'ai enseignée qui ne serait pas biblique, c'est la vérité. Mais parce que je me tiens pour cela, je suis abandonné. Je l'ai attendu que cela ait ainsi. Dieu m'a averti à l'avance. Ils ont fait la même chose avec lui. J'ai dit, mais d'où est-ce qu'il a cette, son instruction? D'où est-ce qu'il vient? Il était le fils du Dieu vivant. Et il n'avait pas un esprit de parti, il n'a pas pris parti pour qui que ce soit. Laissez-moi être assez un homme. Que Christ soit assez en moi. Et si je me tiens seul, que je sois dans la vérité et que je puisse la prêcher aux hommes. Je préfère prêcher l'évangile à 5 personnes dans la vérité que à des millions dire le mensonge et faire des compromis. Dieu m'a dit, alors que ces grands signes et miracles et prodiges ça avaient lieu et les signes de la résurrection de Jésus-Christ sont déterminés à l'église. Mais les hommes sont tellement emprisonnés dans leur groupe. Mais laissez-moi vous dire la chose suivante. Dieu va restaurer toutes choses. Toutes ces choses qui ont été rongées, il va les restaurer. Dieu va de nouveau restaurer. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré tous ces insectes. Dit le Seigneur. Ainsi, aide-moi Seigneur. Je donne maintenant cette prophétie. Avant le retour du Seigneur, la véritable foi apostolique, comme c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, le véritable Saint-Esprit va être manifesté de nouveau. La véritable foi sera manifestée. Les pentecôtistes l'ont en partie reçu. Mais eux aussi, ils se sont organisés. Et ils ont fait des groupes. Ils ont formé une organisation et une dénomination. Et alors que le Seigneur avait envoyé ce don, alors ils sont venus. Ils voulaient avec moi organiser une église appelée la plus dernière saison. Et les enfants de mes dieux, chacun voulait m'avoir. Et je me tenais entre eux tous et je dis, c'est ici le fondement, la Bible. Venez, sortez de toutes ces choses faites par les hommes et revenez au sein des Écritures et au modèle de la Bible. C'est ainsi que vous aurez la sagesse, le discernement, l'esprit, la puissance et la restauration de la véritable église et des dons et des fruits. La véritable vie de Dieu en vous. Tout cela sera manifesté. Mais les hommes demeurent dans leur groupe et ils voulaient m'avoir dans leur groupe. Non, j'ai pris parti pour personne. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Nous devons revenir, sortir de tous ces groupes et revenir au fondement. Car sur ce fondement, je battrai mon église. Et les portes et des morts ne pourront pas contre elle. Oh, que Dieu vous bénisse tous. Peut-être que vous pensez que je suis un peu trop... Je parle un peu à trop haute voix. Non, je pense que c'est en ordre. C'est en ordre pour cette parole. Le même Saint-Esprit est ici. Le même Esprit qui a écrit la Bible est ici. Et si l'Esprit qui a écrit la Bible est en vous, il dira amen à chaque parole. Car tous ceux, si la Bible dit que les véritables croyants ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, le véritable Esprit de Dieu dit amen. Et si la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, Jésus est tellement, le véritable Saint-Esprit dit amen. Et si ça c'est le véritable Saint-Esprit, alors c'est la véritable aussi révélation de l'Esprit parmi nous, en nous. Portez un jugement sur la parole que vous avez écoutée avec la Bible. Comparez cela avec la Bible. Avons-nous aujourd'hui un baptême? Ça, je voudrais maintenant le savoir. C'est en ordre? Non. Si ce n'est pas le cas, alors c'est en ordre. C'est ainsi que nous pourrons prier pour les malades. Y a-t-il des gens ici qui sont malades? Combien sont ici qui me sont étrangers et que je ne connais pas? Je vous ai étranger. C'est en ordre? Vous êtes malade et vous souffrez. Si Dieu est Dieu, et que lui, il est le Dieu de la parole que je prêche. Jésus-Christ disait, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Jésus-Christ disait, les œuvres que j'ai faites, et encore de plus grandes, vous les ferez car je vais auprès du Père. Qu'est-ce que je disais? Il est ressorti de son corps de chair. Il est allé dans la colonne de feu. Alors que Paul était en chemin, sur le chemin de Damas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la colonne de feu. Le Seigneur, de nouveau, dans la colonne de feu. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dans cette image? Dans cette photo? Sur cette photo? Vous dites, mais frère, madame, tu peux le dire. Si ça c'est la vérité de Dieu, si c'est la même colonne de feu, alors il est, alors c'est le même Jésus-Christ. Alors il sera en vous et il fera la même chose. Cette parole qu'il a prononcée, il la confirmera en vous. Il a prononcé cela de sa bouche. Vous voyez, leur incrédulité ne l'a pas stoppé. Il n'a pris parti pour personne. Il a prêché comme il a reçu la parole de Dieu. Sans prendre parti et sans faire de groupe. À Golgotha, il était seul. Il était tenu seul. Il était entièrement seul. Oh, si vous voulez atteindre quelque chose pour Dieu, vous serez seul. Vous serez abandonné de tous. Pas vos églises, pas vos dénominations. Vous et Dieu. C'est ça qui est important. Pas vos assemblées. Il s'agit de toi et de Dieu. J'ai demandé à toutes ces organisations de faire ce que la Bible dit. S'ils ne le font pas, c'est leur problème. Moi, je suis libre de leur sang. Je me tiens devant Dieu. Avec les méthodistes, avec les trinitaires, avec les unitaires, les baptistes. Je suis allé à l'assemblée de Dieu. Je suis allé à toutes ces assemblées. Ils ne sont pas en accord avec les unitaires. Chacun. Et bien sûr que Jésus avait un père. Jésus avait un père. Eux, ils baptisent au nom de Jésus. Moi, je baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que les unitaires disent, ce n'est pas vraiment pour lui. Dans les pays latins, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus. Mais il y a un seul Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus, Fils, le Logos, qui est sorti de Dieu au commencement. Vous voyez? Oh, je suis reconnaissant de cela. Mon cœur loue et exalte. Qui est sorti de Dieu au commencement en tant que Yahvé. C'est le même. Son esprit qui a écrit la Bible est ici aujourd'hui. Il vient pour se manifester. Si Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est présent aujourd'hui ici et que j'ai dit la vérité de sa parole, alors il va la confirmer. Bon, nous avons déjà dépassé le temps. Je ne voudrais pas prier pour ceux qui viennent toujours ici, mais seulement pour ceux qui me sont étrangers et qui sont malades. Si j'ai dit la vérité sur Dieu et que ces hommes savent que je ne les connais pas, et si le Saint-Esprit est le même, alors il peut révéler ce qui est en eux. Alors il est lié de nouveau comme il était au commencement. Et la vie est manifestée. Il est lié à ce qu'il a dit au commencement. Et la vie est manifestée. Les églises disent, oui, ça c'est la télépathie, etc. Ils ont dit la même chose au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont dit qu'il a les Belzébuth. Mais cela ne stoppe pas, n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Cela augmente encore l'œuvre de Dieu. Il est toujours Dieu, il demeure Dieu. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il confirmera sa parole, il va honorer sa parole. Je vous ordonne, si vous n'êtes pas baptisé au nom de Jésus-Christ, laissez-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Ne regardez pas ce que les églises disent. Ou bien quelqu'un dit. J'ai eu des hommes dans mon bureau. Et je leur ai posé la question, montrez-moi, où est-ce que quelqu'un dans la Bible aurait été baptisé dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit? Vous voyez? Maintenant, vous pouvez prouver votre doctrine. Mais si quelqu'un dans la Bible aurait été baptisé autrement, il y a eu des hommes qui ont été baptisés dans aucun nom, mais dans le baptême de Jean, pour la repentance. Et Paul les avait rencontrés, c'était Apollos. Il avait un bon prédicateur, c'était Apollos. Et c'est seulement. Et Paul leur a demandé, est-ce qu'avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous êtes devenus croyants? Ils ont dit, mais nous ne savons même pas que le Saint-Esprit est présent, est là. Et il a demandé, alors comment est-ce que vous avez été baptisés? Alors ils ont dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Le même homme qui a baptisé Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Paul leur a dit, vous devez être de nouveau baptisé. Car Jean a seulement baptisé pour la repentance, mais pas pour le pardon des péchés. Il a prêché qu'il devait croire à celui qui devait venir. Mais ensuite, ils se sont laissés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul leur a imposé les mains, ils ont parlé en langue, et ils ont prophétisé. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Paul est l'homme qui a dit à ces gens qu'ils doivent de nouveau se laisser baptiser. Parce qu'ils n'ont pas été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai le droit de dire la même chose. Qu'est-ce que Paul a dit dans Galates chapitre 1, au verset 8? Combien ça que Paul a dit que si un ange même vient du ciel, pas seulement quelqu'un d'une église, d'une dénomination, même si un ange vient du ciel et vous prêche un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème et maudit. Et il a continué, il a dit, comme je l'ai dit auparavant, ainsi je le dis encore, si quelqu'un prêche l'évangile d'une autre manière, qu'il soit maudit. Vous voyez, si un ange dit quelque chose d'autre, qu'il soit maudit. Ça c'est juste. Qu'il soit maudit. N'écoutez pas ce qu'il dit, même si un prédicateur, un missionnaire, un évangéliste. Et s'il vous ordonne de baptiser différemment que au nom de Saint Jésus-Christ, alors je voudrais dire avec Paul, qu'il soit maudit. Amen. Il ne s'agit pas de il ne s'agit plus maintenant de serrer la main à un prédicateur. Qu'il soit maudit. Car le Saint-Esprit crée en vous une naissance, pas plus que vous avez là maintenant. Et comme moi je l'ai dit auparavant, une naissance naturelle, c'est un désordre. Que ce soit qu'elle ait lieu à la maison, que ce soit qu'elle ait lieu à l'hôpital, ou bien dans une pièce la plus belle. Une naissance est toujours un désordre, est toujours liée à un désordre. C'est ainsi aussi avec la naissance de Dieu, avec la nouvelle naissance. C'est crier et pleurer. Mais la vie se crée un chemin, se fera un chemin. Vous voyez, nous devons entrer dans cette vie, pas seulement se serrer la main, ou bien être membre d'une assemblée. Oui, oui, je crois en Dieu, le créateur de la terre, et au sein et à l'église catholique. Si vous croyez à la communion avec les saints, avec les saints qui sont morts, alors vous savez que cela vient du diable. Il y a seulement un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, c'est l'homme Christ Jésus. Et il n'est pas mort, il vit. Alors que l'église catholique, alors que les saints catholiques et ou bien les protestants, ils sont tous morts. Et si c'était vraiment des saints, alors ils sont dans la gloire. Mais si vous avez des liaisons avec des gens qui sont morts et des communions avec eux, cela vient du diable. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez? Et ça aussi, ça a été changé. La communion avec les morts, ça vient du diable. Mais Dieu ramène tout dans l'état primitif. Il nous remplace les années passées. Comme Sainte Cécile et tous ses saints. Il s'agit de revenir à la parole de Dieu, à la Bible, de revenir à Jésus lui-même. Car il est vivant, le Seigneur a dit, je vais vous remplacer toutes ces années passées. Et vous voyez que la vie se ferait de nouveau un chemin. Dieu restaure l'Église et il la ramène dans sa plénitude, dans la statue parfaite du Christ. Oh Dieu, je te demande maintenant de tout mon cœur, ta parole a été prêchée, je te demande que tu puisses bénir tous ceux qui sont ici, et je te demande que tu puisses te manifester à tous dans ta lumière, qu'ils puissent la comprendre, qu'ils puissent tous être guéris par la pommade de Gilead et tous ceux qui ont été aspergés en trois dieux, qu'ils puissent voir leur erreur. C'est tellement important à combien de gens je crois. Je presse, si ce n'est que tu te révèles à eux, sinon ils ne pourront pas comprendre ces choses. Tu as fait tant de miracles et tu as tenu tant de prédications et tu as prouvé que tu es le Messie, que tu es le loin. Car Esaïe avait dit, ils ont des yeux et ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils ne voient pas, et ils n'entendent pas. Tu as de manière nouvelle manifesté ta parole et tu nous as fait revenir au fondement original. Tu as révélé les enseignements bibliques et tu as confirmé ces choses par les signes des miracles. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne peuvent pas le voir et l'accepter et le comprendre. Parce que Paul a dit par l'esprit qu'ils seront orgueilleux. Ils seront fanfarons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Et ils vont rejeter ceux qui. Ils vont rejeter les gens du bien. Mais malgré tout, ils auront la forme de la piété. Mais ils vont en renier ce qui fait la force. Ce qui en fait la force. Il a écrit de nous séparer de tels gens. Oh, je t'en supplie, oh Dieu, que tu puisses se manifester et vivifier ta parole parmi nous. Je te demande dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Si tu le fais, nous serons tous réjouis et te remercier. Et nos cœurs éclateront de joie. Seigneur, que tu puisses parler avec chaque cœur pendant que nous attendons que toi-même tu te manifestes. Que ton esprit puisse répandre à nous le véritable Saint-Esprit, le véritable amour dans cette branche du sceptre que nous sommes. Que tu puisses confirmer ta parole. Chaque homme est un menteur. Seulement ta parole est la vérité. Ça n'a pas d'importance. Combien sont contre ta parole? Que ce soit les martyrs. Que ce soit qu'il y ait les martyrs et qu'il n'y ait plus de campagne d'évangélisation. Malgré tout, Seigneur, je me tiens dans ta parole. Et tous ceux qui t'appartiennent viendront. Car tu as dit que mes brebis entendent ma voix. Tel que tu, au commencement, tu as appelé les brebis, c'est ainsi que tu les appelles encore à la fin. Un étranger, ils ne suivront pas un étranger. Autrefois, tu as dit, répandez-vous. Pierre a dit, répandez-vous. Et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et tes brebis entendent ta voix de la même manière. Si les autres disent que cela vient de l'Antichrist, non, cela n'est pas l'Antichrist. Tes brebis ne suivront pas un étranger. ils obéiront à ta voix et te laisseront baptiser publiquement. Je te demande, Père, que tu puisses confirmer ta parole et accorder tout ce que nous te demandons en ton nom. Je te le demande dans ton saint précieux nom. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un parle dans un message en langue d'une manière que je ne peux pas traduire car je ne le comprends pas. Bien sûr.
Nun, der Geist Gottes wirkt.
L'Esprit de Dieu agit. Je vais tourner mon dos à l'église. Et je ne veux pas que ceux que je connaisse, ceux qui viennent visiter souvent l'assemblée, viennent dans la lignée, mais ceux qui sont seulement des visiteurs ici aujourd'hui. Demandez à Dieu. Et je tourne mon dos à l'assemblée. Et Dieu va révéler les pensées de vos cœurs. Je ne vous vois même pas. Je vous ai tourné le dos. Je ne vous connais pas. Avez-vous des cartes de prière? Jésus disait, qui m'a touché? Que Dieu puisse au moins confirmer deux fois sa parole. Qu'il est ici présent. Il a dit, chaque chose doit se reposer sur au moins deux ou trois témoins. Quoi que vous avez comme besoin, demandez à Dieu, il vous l'accordera. Si vous le croyez, levez vos mains. Combien sont ici qui n'ont jamais vu que le Seigneur se manifeste de cette manière? Bon, vous voyez, où est-ce que je me tiens? C'est un défi. Si Dieu est Dieu, il se manifestera. Si ce n'est pas la vérité que j'ai dit, alors c'est un mensonge. Alors je suis un faux prophète. Alors vous ne devrez jamais venir encore pour m'écouter. Alors je serai un faux prophète. Alors j'ai rendu un faux témoignage de la parole de Dieu. Bon, la femme là-bas qui prie sérieusement, elle est parmi nous, que Dieu t'accorde selon tes requêtes. Bon, ça dépend de vous. Est-ce que Dieu se tournera vers vous ou pas? Je voudrais voir quelqu'un que je ne connais pas. Ici. Toi, tu n'es pas de parmi nous ici. Non. Tu viens de l'extérieur. S'il te plaît, lève-toi. Pendant que tu étais assis dans la prière, il y a un sentiment étrange qui est venu sur toi. C'était la présence de l'ange de l'Éternel. Il se tient maintenant encore avec toi, à côté de toi. Tu as touché quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as. Mais tu n'es pas de cette ville. Tu pourrais venir de Louisville ou bien de Tennessee ou bien de quelque part. Je ne le sais pas. Seulement Dieu le sait. S'il me le révèle. Et que tu croiras de tout ton cœur. Si il me révèle les pensées de ton cœur et que tu accepteras cette parole et tu la mettras en batterie. Bon. Pendant que tous regardent ici. Que le Saint-Esprit puisse le révéler. N'ayez pas peur. Il est Dieu, il confirme sa parole à chaque fois. La femme a eu... Tu as des douleurs de cœur. Et tu as des douleurs de cœur à cause des nerfs. Et c'est grave quand tu t'allonges. Tu viens de l'Ohio, tu as eu une opération. Cette opération n'est pas encore guérie. Tu viens de l'Ohio. Tu as encore des difficultés dans ton cœur. Tu as de la dépression et c'est ta fille. Elle est paralysée. Ainsi dit le Seigneur. Repars. Reçois selon tes prières. Tu l'as touché. Crois-tu? Amen. Qui est encore là? Crois-tu que Dieu va me révéler? Pourquoi c'est ici? Crois-tu que le même Dieu est ici? Oh, tu as une ombre sombre sur toi. Tu as le cancer. Crois-tu que Dieu te guérira? Oui. Alors toi aussi, tu peux repartir à Levelland, Ohio, car c'est de là-bas que tu viens. Jésus-Christ t'a guéri. Ici, il y a encore une femme. Elle a une maladie de peau. Lève-toi, s'il te plaît. Crois-tu? Cela t'a un peu choqué. Repars. Cela ira bien. Tu es guéri dans le nom de Jésus. Malheureusement, ici, la réunion de guérison divine sur la bande en anglais est finie. Que Dieu vous bénisse tous.
Viens.